L'invité du jour vous est présenté par Agirie Télécom. Agirie Télécom, toujours plus proche.
Chaque matin avec Nesrine Dahmoun, l'invité du jour, elle reçoit ce matin Madame Nouara Tahiri, inspectrice à l'inspection générale au ministère de l'Éducation nationale. Bonjour mesdames.
Bonjour Soraya, bonjour à tous. Alors je précise, Madame Nouara Tahiri, vous êtes inspectrice principale à l'inspection générale de l'Éducation nationale. Merci d'être avec nous ce matin à l'occasion de la rentrée scolaire. Quelques 12 millions d'élèves algériens rejoignent ce dimanche les bancs de l'école. 1 million de travailleurs du secteur entre enseignants, responsables éducatifs et pédagogiques ont rejoint aussi leur établissement scolaire. Alors pour cette année, le ministère de l'Éducation nationale a placé cette rentrée sous le signe de la santé scolaire et un cours a été consacré, donc premier cours de la journée, à cette thématique. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'organisation de cette semaine de la santé scolaire, Madame Tahiri?
Bonjour. D'abord, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la chaîne 3. Et je voulais juste rectifier un peu
le titre, bien sûr.
Inspectrice centrale. Mm-hmm. Ok, donc oui, comme vous l'avez mentionné, la rentrée scolaire, le sujet de la première semaine de la rentrée scolaire est dédié à la santé scolaire. C'est une initiative du ministre de l'Éducation, Dr Sadawi, convaincu que l'esprit sain est dans un corps sain.
Oui.
Et aussi, ce choix du sujet de la santé scolaire comme sujet du cours inaugural et aussi d'une semaine de sensibilisation pendant toute la semaine, mm-hmm. Traduit l'engagement du secteur de l'éducation à la stratégie nationale de prévention des maladies et à la promotion de la santé scolaire. Donc voilà pourquoi ce sujet-là justement. Et puis après, il y a toute une panoplie d'activités qui ont été organisées à l'avance pour réussir cet événement. Parce que c'est très important justement,
oui,
de sensibiliser nos élèves parce que l'école ne transmet pas que des savoirs, elle éduque aussi. Donc voilà, le choix du sujet et de la leçon justement inaugurale aujourd'hui. Au primaire, il y a deux types de leçons qui vont être faites dans les établissements selon les cycles.
Oui.
Au primaire, par exemple, il y aura la leçon, ça sera sur les habitudes alimentaires, et la santé physique aussi. Donc, il y aura des ateliers pendant toute la semaine dans ce sens, sur l'hygiène bucco-dentaire, par exemple, sur la nourriture qui est l'alimentation healthy et tout. Donc, tout ça, c'est pour le cycle primaire, pour qu'ils puissent développer des habitudes alimentaires saines. Mm-hmm. Pour le cycle moyen et secondaire, le sujet sera sur la santé physique, mais pas que la santé physique et mentale, parce que on veut faire de la prévention et informer sur le danger de la dépendance aux écrans, de l'addiction aux substances stimulantes, parce que vous savez maintenant dans notre société on voit beaucoup de nos jeunes consommer beaucoup de boissons énergisantes, beaucoup et encore il y a d'autres addictions qui sont encore plus graves, donc il y a une sensibilisation dans ce sens pour que on éduque nos élèves à de meilleurs comportements alimentaires et aussi pour préserver leur santé physique et mentale.
Est-ce que ce programme va s'étaler tout au long de la semaine? Quelles sont les autres activités qui y sont prévues au-delà de cette journée inaugurale, Madame Tahiri?
Ok. Donc, au fait, ça ne veut pas dire que toute la semaine, les élèves n'auront à faire que ça. Au contraire,
oui.
Ça, il y aura des cours tout à fait normales dans les classes, mm-hmm. mais en marge de ces cours, il y aura des ateliers, des activités, des conférences, des présentations auxquelles les élèves, dans un moment où ils sont pas dans la classe, ils sont libres, ils vont assister à une conférence ou bien à un atelier. Mm-hmm. Donc, bien sûr, le cours inaugural, ça sera dans tous les établissements à la première heure, dans tous les établissements à travers toute l'Algérie. Après, les activités, elles vont aller sur tout le long de la semaine et il y aura aussi tout le long de la semaine l'emploi du temps qui sera respecté, où les cours prévus seront assurés aussi.
Est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres semaines de ce genre qui seront organisées tout au long de l'année scolaire, Madame Tahiri?
Il y a toujours des événements semblables comme ça sur la santé qui sont prévus mm-hmm. Par notre secteur tout le long de l'année. Bien sûr, il y a une sensibilisation continue. Ce n'est pas juste un point aujourd'hui à la rentrée, mais la santé scolaire reste un point important nos partenaires du ministère de la Santé, en partenariat avec le ministère de la Santé et avec aussi les clubs de santé il y en a au moins 12 000 au niveau du territoire national qui sont animés par les élèves. Oui. Il y a des journées comme ça de santé qui sont prévues dans les établissements. Il y a par exemple des journées sur le tabagisme, les journées sur la consommation des substances psychotropes et tout. Donc c'est un processus continu tout le long de l'année, à chaque événement, chaque date importante, il y a quelque chose qui est prévu. Tout le long de l'année.
Alors, on va parler aussi d'un autre point, c'est que le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Sereh Sadawi, a insisté également sur la livraison de nouvelles infrastructures dans les délais et puis que d'autres soient préparées, celles qui sont déjà existantes, soient préparées pour cette rentrée 2024-2025. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces nouvelles structures qui sont prévues pour cette rentrée et puis celles qui auraient été rénovées pour l'occasion?
Oui. Au fait, c'est deux programmes différents justement dont mm-hmm. vous parlez. Pour les structures qui ont été réceptionnées, il y a 464 nouveaux établissements réceptionnés pour cette rentrée, donc qui sont ouverts et ont reçu des élèves dans 272 primaires,
oui.
132 collèges CEM et 60 lycées. Ce qui fera le nombre total de tous les établissements scolaires en Algérie, près de 30 000 établissements.
D'accord. Nouveaux établissements?
Non, 30 000, c'est le total.
Le total.
Ouais. Les nouveaux réceptionnés, c'est 464.
Très bien.
Oui. Mais il y a encore d'autres établissements qui n'ont pas été réceptionnés, mais leur réception se fera progressivement parce qu'ils sont en cours d'achèvement justement. Mm-hmm. Donc à chaque fois qu'il y a un établissement qui est prêt, il sera réceptionné durant l'année 2025-2026. Donc on parle de près de 600 classes, 196 CEM et 70 lycées. Donc c'est des établissements qui sont en mmh. cours d'achèvement, qui vont être réceptionnés à chaque fois qu'ils sont prêts pour ça.
Alors, le ministre de l'Éducation a également instruit le directeur de l'Éducation à établir un état des lieux des établissements scolaires vétustes. Ça, oui. C'était important aussi de le faire.
Oui, ça a été fait au fait. Tous les établissements en situation de vétusté justement a été répertorié, des travaux de réhabilitation a été faite mm-hmm. et ils sont prêts justement pour recevoir dans les meilleures conditions les élèves et même il y a des travaux de réhabilitation, il y a aussi ordre d'assurer la propreté dans les établissements scolaires. Donc tous les directeurs d'éducation ont été instruits
oui.
pour et une campagne justement de nettoyage et tout parce que c'est très important d'assurer un bon environnement d'apprentissage.
Et d'hygiène aussi pour les enfants.
Et d'hygiène aussi pour les enfants, ça va de soi, oui.
Alors, une autre nouveauté pour cette année, il y a eu la réorganisation des matières et des horaires pour la troisième année de l'enseignement primaire. Expliquez-nous comment ces cours vont être réorganisés pour ce qui est du programme et des horaires.
Oui. Donc, cette année, dans le cadre de la réforme, des réformes des programmes et réformes de... Donc, on a commencé. Bien sûr, les réformes doivent débuter au niveau du primaire. Mmh. Donc, après avoir, justement, maintenant, vous savez, les deux premières années, les élèves n'ont que... les langages fondamentaux, ça veut dire au cours de l'arabe, le calcul, l'écriture, la lecture et tout, pour assurer que les compétences de ces élèves dans cette matière-là soient assurées, justement. La compétence visée est assurée et développée. Après, maintenant, commence le deuxième cycle du primaire, en troisième année. Donc, la réforme commence aussi à toucher le deuxième cycle du primaire. On commence par la troisième année. Donc, à la troisième année, on a équilibré d'abord le volume horaire alloué aux langues étrangères. Donc, maintenant, l'élève, pour donner plus d'importance, en fait, à l'anglais, à l'introduction de l'anglais au primaire. Comme l'anglais, vous savez, l'introduction de l'anglais au primaire est une décision du président.
La République, oui.
Donc, si on veut préparer nos élèves à maîtriser cette langue, et parce que maintenant, vous savez, les études à l'université, il y a... se feront en anglais pour ces élèves-là. Donc, il faut assurer une maîtrise de cette langue. Mm-hmm. Donc, voilà, la première mesure, c'est l'équilibre du volume horaire des langues étrangères. Après, il y a eu aussi un allègement. Enfin, on a retardé l'introduction de quelques matières jusqu'en quatrième année, voire comme par exemple la géographie. Ouais. Donc, on a mis l'accent sur l'histoire, qui est une matière de l'identité nationale aussi. Et on a aussi donné beaucoup de temps aux élèves. Pour un temps de récréation, un temps de... Donc, on a donné plus de temps pour l'éducation physique et l'éducation artistique. Donc, pendant les après-midi, les élèves vont avoir plus de temps pour faire ça, justement, pour, bien sûr, que l'élève se sente bien. C'est pour le bien-être de l'élève dans les établissements, mais aussi... on a alloué plus de temps parce que, vous savez, l'école primaire, c'est une pépinière. Il y a des pépites qui sont cachées et il faut les découvrir.
D'accord.
Et nous, ce qu'on veut, on a introduit l'éducation sportive justement parce qu'on veut découvrir les pépites. Les compétences qui sont là et pour pouvoir les mettre dans les structures qu'il faut pour qu'ils soient compétitifs.
Qu'ils
soient des champions, les futurs champions.
Parce que finalement, s'il y a trop de matière, trop de pression au niveau de la troisième année, vous pensez qu'on ne peut pas laisser émerger ce potentiel chez les enfants, c'est ça, finalement?
Oui, mais il faut qu'il y ait un équilibre aussi, un équilibre entre l'horaire alloué à transmettre des savoirs et aussi le temps alloué aussi pour que l'élève s'amuse et exprime ses talents, son talent. Donc, l'élève, on donne l'occasion à l'élève d'exprimer son talent. Et pour nous, c'est l'occasion de découvrir ses talents et de les développer pour qui soient compétitifs dans l'avenir.
En fait, vous avez fait la transition sans le savoir, puisque le ministre de l'Éducation a mis l'accent sur la généralisation de l'éducation physique et sportive. Il a instruit à ce que tous les établissements scolaires soient dotés d'équipements adéquats. Est-ce que c'est en cours? Quels sont les moyens qui sont mis à disposition pour la mise en application de cette directive?
Oui.
Alors, je vous demanderai juste de répondre à cette question juste sur Alger-Chin 3 avec nous ce matin. L'invité du jour, Madame Tahiri, qui est inspectrice centrale à l'inspection générale au ministère de l'Éducation nationale, que nous invitons à l'occasion de la rentrée scolaire. Avant le sommaire, Madame Tahiri, on parlait donc d'un point sur lequel a insisté le ministre de l'Éducation, à savoir la généralisation de l'éducation physique et sportive en dotant les établissements scolaires d'équipements adéquats. Alors, quels sont les moyens qui ont été mis en place pour doter tous les établissements scolaires de ces équipements?
Oui, comme je vous disais auparavant, d'abord, on a mis un volume horaire adéquat pour, justement, le volume horaire a été augmenté pour assurer qu'il y ait une bonne prise en charge de cette discipline, l'éducation physique et sportive, mais pas que. Vous savez, par le passé, l'éducation sportive l'éducation physique et sportive était assurée par l'enseignant du primaire.
Oui.
Donc, c'était juste un moment de récréation et tout, mais il n'y avait pas vraiment une prise en charge correcte de cette discipline. Maintenant, l'année dernière, plus de 12 000 enseignants de la matière, maintenant, au primaire, le sport est enseigné par un spécialiste du sport, un enseignant que de sport.
D'accord.
Donc, voilà déjà le premier moyen majeur qui est mis en place pour prendre en charge l'éducation physique et sportive dans au primaire. Donc, je vous disais tout à l'heure justement, c'est pour une meilleure prise en charge de cette matière et pour découvrir justement les talents et les faire et développer leur performance pour qu'ils soient compétitifs. Ça, c'est le premier moyen. Après, tous les établissements scolaires, bien sûr, sont équipés de besoins matériels pour la pratique du sport au primaire.
Est-ce que certains directeurs d'école vont faire appel à des infrastructures annexes, par exemple des stades communaux pour la formation, pour l'activité sportive scolaire?
Oui, justement. Le sport au primaire se fera dans le primaire s'il y a la structure qu'il faut.
Oui.
Sinon, il y a toujours aussi un accord avec les collectivités locales pour assurer un endroit pour que les élèves du primaire fassent le sport à côté de leur école aussi.
Comment ça va se passer pour les wilayas un peu plus isolées, on va dire, les régions les plus isolées et qui n'ont pas forcément ces moyens de mettre en place un programme sportif scolaire?
La mesure concerne tous les établissements scolaires du cycle primaire au niveau national. Donc, il y a les directeurs d'éducation doivent assurer qu'il y ait un endroit pour chaque école, pour faire la pratique sportive, justement, pour les élèves.
Et pour le moyen et le lycée, c'est déjà existant, le programme existe déjà.
Oui, pour le moyen et le secondaire, l'éducation sportive aussi existait déjà par le passé. Oui. Ça n'existait pas au primaire, justement. Oui. C'est pour ça qu'on a voulu, justement, être proactif, parce que si on doit attendre jusqu'au CEM pour détecter des talents, après, ça va être un peu limite de développer les compétences de ces élèves-là et ils pourront pas être aussi compétitifs que si on les découvrait justement au cycle primaire.
Est-ce qu'il n'en est pas aussi question de santé à présent, parce qu'on voit des enfants qui souffrent de maladies ou que ça serait peut-être l'occasion de leur faire du sport et qu'ils se sentent beaucoup mieux? Question de santé publique aussi.
Oui, ça rentre dans cet ordre-là aussi, mais bon, oui, parce que vous savez que pourquoi le sujet, par exemple, qu'on a dit du cours inaugural, c'est l'équilibre alimentaire.
Absolument.
Les habitudes alimentaires. Beaucoup d'enfants actuellement, on a remarqué, souffrent d'obésité. Donc, introduire le sport et tout, ils vont acquérir la culture de l'éducation physique, et aussi d'avoir de bonnes habitudes alimentaires.
On va parler aussi d'un autre point qui est tout aussi important, celui du recrutement des enseignants. Une opération exceptionnelle de recrutement d'enseignants contractuels a été organisée à la fin du mois d'août via le site taoudif.education.dz. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'opération, de cette opération? Comment elle s'est déroulée? Est-ce que les enseignants ont été recrutés? Est-ce qu'ils ont été affectés également dans leurs établissements respectifs?
Oui, normalement, tout a été fait pour que les enseignants recrutés sur le site, justement, sous contrat, il y a les enseignants désireux justement de travailler ont formulé leur demande sur le site, et après il y a eu un classement et les gens et les enseignants ont été recrutés selon le besoin.
Voilà.
Donc et les autres demandeurs sont classés par ordre de mérite sur une liste d'attente. Donc si un poste encore apparaît à la rentrée, on fera appel, on reviendra à cette liste d'attente pour reprendre les enseignants qui sont classés.
En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le recrutement se poursuivra tout au long de l'année, c'est bien cela?
Normalement, jusque-là, on a assuré tous les postes vacants après le recrutement récent. Donc, on a fait une analyse des besoins dans chaque direction d'éducation et on a recruté selon les besoins et selon les postes vacants existants.
Oui.
Maintenant, il peut y avoir des besoins qui émergent tout le long de l'année. Par exemple, un congé de maladie, un congé de maternité, un départ en retraite. Donc là, on reviendra toujours à ce classement-là et on appellera les gens qui ont postulé pour être recrutés dans le secteur.
Alors, est-ce qu'il y a des régions où la demande est beaucoup plus importante que d'autres ? Et aussi des matières où la demande est plus importante que d'autres, où la vacance des postes est plus importante.
Au fait, on ne peut pas savoir pour l'instant. Ça dépendra, ça varie d'une ville à une autre. On peut pas, il n'y a pas un besoin plus spécifique d'une matière ou d'une discipline à une autre. Mais tous les besoins ont été satisfaits par le recrutement de recrutement des gens qui ont postulé sur le site.
Alors, pour ce qui est de l'anglais, étant donné qu'on a introduit l'anglais au primaire, et du coup, je pense qu'il y a eu un grand recrutement d'enseignants d'anglais sur la base de quelles compétences? Comment ça s'est passé? Comment s'est organisée cette opération de recrutement des enseignants de l'anglais? Est-ce que vous avez fait appel à des anciens enseignants, de nouveaux licenciés? Comment ça s'est passé?
Au fait, le recrutement des enseignants d'anglais au primaire, et cette année, pratiquement saturé, parce qu'on a recruté pendant 3 ans, les années où on a introduit l'anglais au primaire. Ça a été aussi le recrutement sous contrat. Donc mais c'est des enseignants qui ont été intégrés après, par la suite.
D'accord.
Donc pour l'intégrer, par exemple, l'année dernière, il y a eu 82 410 enseignants nouveaux intégrés. Donc, ça, c'est la dernière vague d'intégration des enseignants.
D'anglais ou...
Non, ça, c'est le général. Le général. Voilà. Mais en anglais, il y a eu aussi, parce que l'année dernière, l'anglais était introduit en 5e année primaire. Mm-hmm. Donc, il y a eu un recrutement aussi de presque 3 000 enseignants d'anglais au primaire.
Très bien. Donc, on va passer aussi à la dernière question avant la fin de cette émission. Elle concerne la numérisation. Le ministre de l'Éducation a affirmé la nécessité d'établir des listes précises des établissements non connectés au réseau. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu déjà sur les établissements connectés et ceux qui restent à connecter encore au réseau de l'éducation nationale, sachant qu'il y a énormément de plateformes, que ce soit pour les élèves, pour les enseignants et même pour les parents?
Oui, oui. Donc, vous savez que la transformation numérique est dans le programme du président de la République.
Oui.
Donc, le secteur de l'éducation a aussi fait des progrès géants dans la numérisation du secteur. Donc, maintenant, actuellement, pratiquement toutes les opérations Et toutes les activités se font via le site de l'éducation et sont numérisées. Donc vous pouvez voir que les inscriptions sont faites, le recrutement se fait avec la numérisation, les transferts, les inscriptions. Maintenant, ce que le ministre de l'éducation a demandé actuellement, c'est de répertorier les établissements qui sont pas connectés à la fibre optique.
Ah, très bien.
À la fibre optique. Donc, il faudra qu'on soit clair sur ça. Donc, beaucoup d'établissements sont dotés de la fibre optique. Il y en a qui ne le sont pas encore. Il faut les répertorier pour justement introduire cette technologie-là, la fibre optique dans tous les établissements pour que la numérisation se passe dans les meilleures conditions.
Merci Madame Donatayri d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes inspectrice centrale à l'inspection générale au ministère de l'Éducation nationale et puis bonne reprise à tous les élèves ce dimanche.